mon prochain invité. Il a fait un score impressionnant aux dernières élections fédérales. Il est au bout du fil. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci de nous parler aujourd'hui, Maxime Bernier.
Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
En direct de Floride, à part ça, puis commençons avec la chose d'ailleurs. Comment ça va là-bas? Ça a l'air que c'est l'hécatombe covidienne et tout s'écroule. C'est la fin du monde.
Non, ça va très bien. Moi, je suis arrivé au début du mois de novembre et on repart, Catherine et moi, à la fin du mois de novembre. On a pris quelques semaines de vacances. Okay. On est sur la côte ouest de la Floride et je peux vous dire que la vie est normale. Comme vous savez, moi et Catherine, mon épouse, on ne s'est pas fait vacciner. Okay. Et donc, on ne peut pas aller au restaurant à Montréal. On ne peut pas participer à la vie sociale au Canada. Mais ici, tout est normal. On va dans les restaurants, les serveurs, les serveuses ne portent pas de masque. Les clients ne portent pas de masque. À la porte, à l'entrée des supermarchés, un peu partout, c'est marqué, on vous conseille de porter le masque si vous le désirez. Bon. Et donc, les gens sont libres, sont responsables de faire ce qu'ils veulent. Et non, ça va très bien et c'est plaisant de pouvoir vivre une vie normale. Et lorsqu'on rouvre les nouvelles ou la télévision ici en Floride, il n'y a pas de nouvelles de COVID à chaque jour sur le nombre de cas ou quoi que ce soit. Donc, on a la paix des nouvelles COVID, là, et ça fait du bien.
C'est ça. Pour rentrer aux États-Unis, comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes arrivé en avion? Ils ne demandent pas le passeport vaccinal. Ça a l'air que, finalement, les douaniers sont pas trop focus là-dessus, nécessairement.
Non, on est pas. Biden avait dit que le passeport vaccinal va être exigé à partir du 8 novembre.
OK.
Et donc, nous, on est parti le 30 octobre. Et je peux vous dire qu'on n'a pas de passeport vaccinal et ça a très bien été. Et lors du retour, je crois qu'il va falloir avoir un test négatif COVID de 3 jours avant de prendre l'avion. Et c'est ce qu'on va faire ici en Floride. Et d'ailleurs, on s'est informé grâce au gouverneur de la Floride, M. DeSantis, les tests COVID négatifs, ben j'espère qu'ils vont être négatifs pour retourner, je suis pas mal certain, ils sont gratuits. Ils sont payés par l'État de la Floride, pour les Canadiens que pour les Floridiens.
Ah, il y a vraiment, lui, il est pas complexé avec sa façon de voir la chose. Contrairement à Joe Biden, je voulais parler du président un peu plus que de M. DeSantis, qui va être ami de Joe Biden pour sa part. Ça regarde pas nécessairement de façon sympathique. Il s'était présenté comme le gars qui ramenait l'Amérique parmi ses alliés. La relation avec le Canada en premier parti avec l'arrêt de la construction du pipeline. Là, il est question d'un deuxième arrêt de construction de pipeline. Ça a pris énormément de temps avant que la frontière soit rouverte. En fait, il n'y a pas eu de privilège pour le Canada qui, d'habitude, en a avec son voisin et le pays où il y a le plus d'échanges entre les deux. Très longue frontière. Comment on peut réussir ça avec supposément deux personnes qui ont une communion de pensée, qui sont des progressistes, toujours mettre ça entre guillemets, mais comment vous interprétez ces échecs-là avec le Canada de la part de Justin Trudeau, qui normalement, naturellement, il n'aurait même pas besoin de se forcer. Qu'est-ce qui a pu se passer entre lui et Joe Biden pour qu'on subisse de tels affronts?
Bien, en ce qui concerne l'oléoduc, le pipeline, il y a quelques mois, effectivement, vous avez raison de dire que Biden a bloqué ça. Et M. Trudeau n'a pas trop rouspété, parce que pour lui, il l'a déjà dit, il veut s'assurer que l'industrie pétrolière soit moins utilisée au Canada et partout dans le monde. Et avec la conférence de Glasgow qu'il y a eu dernièrement, M. Trudeau est en diapason avec les autres leaders qui veulent s'assurer que les changements climatiques, c'est finalement le gros défi de ce siècle-là. Ouais. Lorsque ils nous font peur avec ces alarmismes climatiques, et Trudeau fait partie de ça avec Biden, ils s'entendent très bien là-dessus, sur les changements climatiques, mais en ce qui concerne l'industrie, en ce qui concerne les échanges commerciaux, on va repasser. Je pense qu'on avait de meilleures relations sous le gouvernement conservateur.
Mais il y avait une meilleure relation quand c'était Trump versus Trudeau. C'est pas naturel. Puis l'ouverture de la frontière, tu sais, on a eu la permission de revenir aux États-Unis. Oui, OK, juste par la route, là, mais en même temps que le citoyen de l'Azerbaïdjan a pu revenir aux États-Unis, ça, c'est c'est impressionnant à quel point c'est contre nature. Qu'est-ce qui aurait dû être fait, à votre perspective, pour que Joe Biden considère mieux le Canada, lui qui voulait se rapprocher donc bien des alliés que le méchant homme orange avait tant rebroussé?
Bien, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que fait pas le gouvernement Trudeau, c'est d'être actif dans ses communications par l'entremise de son ambassadeur à Washington, okay. S'assurer que les Américains et le Congrès américain comprennent bien les préoccupations du Canada. Et aujourd'hui, je pense que M. Biden en a plein les culottes avec sa popularité qui décline de jour en jour aux États-Unis. Et il n'a pas nécessairement comme priorité les relations canado-américaines. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait avoir un lobbyiste plus efficace avec nos ambassadeurs qui sont, et l'ambassadeur à Washington. Et c'est ce qu'on ne fait pas actuellement. M. Trudeau ne se préoccupe pas des relations commerciales. Il se préoccupe plus de l'alarmisme climatique qu'autre chose.
Parlant de relations commerciales, on va changer de pays, mais on demeure dans les relations internationales. Est-ce qu'on peut se passer de la Chine éventuellement? Est-ce qu'on devrait au moins s'aligner vers ça? On vient de voir qu'ils ont réussi à construire un porte-avions presque terminé, de l'acabit de ceux que les États-Unis ont en leur possession. Ça, c'est préoccupant avec la fusée hypersonique qu'ils ont fait passer au-dessus de la tête de la planète entière récemment. Le plus gros build-up militaire de l'histoire de l'humanité, finalement, qui est en train de se produire. Une hostilité qui n'est pas voilée, mais pourtant, nous autres, on continue, à exemple, à avoir 90% de notre pénicilline qui est fabriquée là-bas. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer vraiment plus fort que maintenant de diversifier nos approvisionnements, exemple, le Bangladesh, l'Indonésie, l'Inde?
Oui, oui, absolument, dans d'autres pays, effectivement, que la Chine, surtout en ce qui concerne les biens et les fournitures médicales. C'est ce qu'il faut faire, mais le gouvernement Trudeau, ce qu'il fait actuellement, il fait la promotion vis-à-vis les entrepreneurs canadiens pour que ceux-ci fassent affaire en Chine. Et c'est le contraire qu'on devrait faire. On devrait dire aux entrepreneurs canadiens, écoutez, là, la Chine est un pays communiste, comme vous le savez, c'est pas un pays capitaliste, c'est à vos risques et périls de faire affaire en Chine, et on vous encourage de faire affaire dans d'autres pays, comme le Bangladesh et d'autres pays, comme vous venez de nommer, il faut que nos échanges commerciaux avec la Chine soient moins dépendants, comme ils le sont actuellement. Et ça, Trudeau en avait parlé un peu au début de la pandémie, mais là, aujourd'hui, chasser le naturel, il revient au galop. Il s'acoquine encore avec les Chinois et incite les entreprises canadiennes à développer des relations commerciales avec la Chine. Nous, on ferait le contraire. On inciterait nos entrepreneurs de développer des relations commerciales avec d'autres pays. On dirait, ben, c'est à votre risque et péril de faire affaire dans un pays communiste.
Quelle est votre impression de la réussite de la Chine à s'imprégner au Canada, à s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, carrément même peut-être réussir à corrompre des élus? C'est des choses qui sont mentionnées. Et il y a une sinoïsation du Canada qui est évoquée dans bien des occasions. J'ai vu un de vos tweets d'ailleurs récemment qui parlait, je pense que c'était 2035, vous avez plus de droit à possession, vous avez un passeport citoyen un peu comme en Chine où là, chaque action va apporter des points. Puis si on est trop mauvais, ou à la limite on pourra même plus sortir du pays, on va avoir des conséquences. Votre perception de ce que la Chine réussit à faire dans les affaires internes du Canada?
Oui, ben le gouvernement chinois est très, je pense qu'il est très efficace, effectivement, à influencer les Canadiens. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, en Alberta, il y a une université en Alberta où je connais un des membres qui siège sur le conseil d'administration de cette université-là. Et ils ont eu un débat justement là-dessus. Ils ont demandé à leurs professeurs de faire des études pour démontrer et avoir aussi en main les chiffres de l'influence de la Chine au Canada. Donc, on demandait, le conseil d'administration débattait à demander à leurs professeurs de faire une étude pour concrétiser et regarder quelle était l'influence de la Chine au Canada. La décision du conseil d'administration a été une décision négative et le conseil a dit non. Pourquoi? Parce que les Chinois financent cette université-là. Et l'université ne voulait pas perdre de fonds qui coûtent bien du Parti communiste chinois. Donc, c'est un exemple frappant de l'influence de la Chine, même par les universités. Et nous, notre position en tant que parti politique, ça va être interdit aux universités. Et si les universités acceptent des fonds du Parti communiste chinois, bien, ils n'auront pas de fonds du gouvernement fédéral. C'est aussi simple que ça. Mmh. On ne peut tolérer ça au Canada.
Le Parti conservateur a eu l'air de déplaire aux autorités chinoises et le Parti libéral, pour certains, est présenté comme quasiment un allié. Est-ce que ça, c'est du complotisme de penser comme ça que la gang de Justin Trudeau apprécie peut-être tellement la Chine que c'en est louche?
Ben, écoutez, on peut avoir des doutes. Là. M. Trudeau, avant d'être premier ministre, a dit qu'il admirait la dictature chinoise.
Oui.
Si on regarde ses politiques, il a tout fait pour se rapprocher des Chinois et du Parti communiste chinois. C'est pas c'est quelqu'un qui suit l'actualité, s'aperçoit bien que le gouvernement Trudeau, la relation avec la Chine, pour lui, il voit aucun problème. Et pour moi et pour nous au Parti populaire, on veut protéger et promouvoir la souveraineté du Canada. Et éliminer cette influence-là, de quelque façon que ce soit, du Parti communiste chinois ici au Canada, comme l'exemple que je vous ai nommé tout à l'heure.
Pensez-vous que la libération de Meng Wanzhou, ancienne ou patronne de Huawei, compagnie liée au Parti communiste chinois, peut être liée à des tractations qui n'auraient pas eu les meilleures procédures et qui auraient peut-être été indues auprès de Justin Trudeau?
Bon, on ne sait pas le détail de cette histoire-là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que les Américains ont décidé de ne pas demander l'extradition. Et lorsque les Américains ont demandé ça, bien, ça soulageait le gouvernement Trudeau. À ce moment-là, les procédures ont été accélérées et donc elle a été libérée, si je peux dire. Elle avait pas le droit de quitter le pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les autres conditions? On le sait pas. Et c'est des questions qu'on aurait posées au gouvernement Trudeau.
Le Great Reset, il y a beaucoup de gens aussi qui associent la patente à ce gouvernement communiste chinois-là. Puis peut-être qu'il y a des idées, oui, qui peuvent sembler, en tout cas, socialistes poussées dans ce que Klaus Schwab amène comme idée. Là, on parle de profiter de la COVID pour faire une économie plus inclusive et tout ça. Est-ce que vous considérez que, je vois de vos partisans qui présentent le personnage quasiment comme carrément le démon, moi je pense que c'est juste un progressiste comme un autre qui aime beaucoup les gros gouvernements. Pouvez-vous nous parler de votre vision de ce Great Reset-là qui fait tant jaser depuis une bonne année?
C'est le titre d'un livre, hein? Great Reset COVID-19, qui a été écrit par le Forum économique mondial. Et eux font la promotion, très clairement, du socialisme. Ils font la promotion d'un gouvernement mondial qui serait supranational, c'est-à-dire un peu comme ce que les Anglais en Angleterre ont dit non. On dit non à
l'Union européenne.
L'Union européenne, parce que justement, les lois ou les règlements de l'Union européenne venaient s'ingérer dans le droit anglais, dans le droit.
Ça amenuise la souveraineté, c'est sûr.
Absolument, absolument. Ils ont dit non, ils ont préféré garder leur souveraineté et ils ont décidé de couper les liens avec l'Union européenne. Mais ceci étant dit, l'idée du Great Reset, c'est que tous les pays bien soient ensemble et qu'on donne plus de pouvoir à des organisations internationales comme l'ONU et promouvoir des politiques socialistes. Nous, au Parti populaire, on dit non à ça, on fait la promotion de la souveraineté du Canada, et on dit le Canada d'abord, les Canadiens en premier, et on fera pas le jeu du Great Reset. Mais le Great Reset, c'est des organismes internationaux, et les gens à la tête de ces organismes internationaux-là font la promotion, effectivement, d'un gros gouvernement mondial qui pourrait justement imposer ses vues aux autres pays, comme un peu a fait l'Union européenne. Et les Anglais ont dit non à ça. Et nous, on veut préserver la souveraineté du Canada, puis on dit non à ça aussi.
Je parle de ces partisans-là pour qu'on ait un petit moment de marketing politique ensemble pour être mieux positionnés à faire élire des députés à la prochaine élection. Il va falloir élargir la base, ça c'est évident, c'est de marketing politique 101. Et il y a cette base-là qui capote. Moi, je suis pas, exemple, un partisan de Klaus Schwab et de cette idée de gouvernement mondial progressiste-là, mais j'ai pas l'impression que c'est un pédo-sataniste, une expression qui revient régulièrement dans certains cercles. Le COVID n'existe carrément pas, les vaccins, c'est des micropuces, etc. Comment on pourra juguler ça au Parti populaire du Canada, gérer cette partie de la base-là et en même temps étendre notre influence?
Oui, ben, effectivement, on est parti de 0% il y a 3 ans à 5% du vote national. Mm-hmm. À la prochaine campagne, on va viser encore plus et on va certainement être capable d'élire quelques députés du Parti populaire. Mais nous, la position officielle du Parti populaire, elle est tout autre. On croit à la liberté de choix. Et le vaccin, je ne suis pas un expert médical, j'ai pas d'opinion à donner sur le vaccin. Ce que je remarque, c'est que les gens vaccinés, les gens non vaccinés, les deux peuvent attraper la COVID et les deux peuvent la transmettre. Et je suis d'accord que l'efficacité du vaccin, elle aide les gens. Si quelqu'un qui est vacciné attrape la COVID, il y a beaucoup moins de chances d'en mourir et d'avoir des effets négatifs. Donc, le vaccin aide à ce niveau-là, mais peut quand même faire en sorte que les gens vaccinés puissent avoir la COVID et la transmettre. Peut-être que le risque est moindre de la transmettre que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Je pourrais être d'accord avec ça en regardant les statistiques. Ouais, ouais. Mais le vaccin, je ne suis pas un expert pour dire aux gens, moi, ce que je veux, que le vaccin soit bon ou pas bon, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais ce que je veux, c'est que les gens puissent décider avec l'information, avoir de l'information sur les effets secondaires du vaccin.
Le consentement libre et éclairé est important pour vous, on comprend.
Effectivement, ce qu'on ne fait pas au Québec et au Canada. Mmh. On a une propagande pro-vaccin et on ne parle pas avant que quelqu'un soit vacciné des effets secondaires du vaccin. On devrait, et la personne devrait être libre et responsable de prendre sa décision. Je peux vous dire, j'ai incité mon père, qui a 87 ans, à se faire vacciner parce qu'il est dans une population à risque. Il est âgé, il est diabétique, et donc, il s'est fait vacciner. Moi et ma femme, on a décidé de ne pas se faire vacciner. Bon,
ceux qui réfléchissent comme ça se font ostraciser, puis mettent de cette façon-là souvent en étant mis dans le même panier que ceux qui pensent qu'il y a une puce dans le vaccin pour contrôler notre, je sais pas, glande pinéale ou des affaires de même. Est-ce que vous avez un message pour ces gens-là? Parce que ça aide pas à la discussion, ça nuit aux objecteurs de conscience qui voudraient peut-être un peu plus de consentement, justement, libre et éclairé.
Ben, ce que je déplore, c'est qu'on a un point de vue dans les médias. On n'entend pas l'autre point de vue qui est pourtant articulé, qui est plus critique, et ça, c'est déplorable. Mmh. Et ce qu'on fait, c'est qu'on traite les gens comme moi qui prônent la liberté de choix et on nous traite d'anti-vaccins, anti-masques, de complotistes, quand c'est faux. J'ai jamais dit que j'étais contre les masques. Quand je vais au Québec à l'épicerie, je porte mon masque parce que c'est la règle là-bas. Mais les gens devraient être libres, comme ici en Floride, de décider s'ils portent leur masque ou pas, devraient être libres de se faire vacciner ou pas. Et on ne devrait plus être dans un état d'urgence au Québec ou au Canada. Les morts COVID sont de moins en... Il y en a de moins en moins. Et on sait que c'est les personnes âgées. Il faut prendre soin de ces personnes-là et laisser la population vivre. Mais on ne veut pas entendre ce point de vue-là et on le discrédite. Et oui, on nous traite d'anti-vax et on nous traite de...
Pourtant, c'est assez évident. Quand on sort les colibets, les attaques personnelles, c'est parce qu'on manque d'arguments. C'est tellement criant. Pourtant, personne n'est capable de manifester ça. Vous le faites bien, mais de l'autre côté, il y a de vos partisans, je répète, qui nuisent. Moi, je me suis fait traiter de pédo-sataniste parce que je suis pas carrément dans le discours paranoïaque de ce genre-là, tu sais. Est-ce qu'on devrait pas leur parler un peu, les adresser, les gérer? Vous êtes dans la meilleure position pour se faire. Je pense qu'ils ont une sympathie envers
Mais ces gens-là ont des idées que je ne partage pas. Moi, il n'y a pas de puce dans les vaccins. Bon. Pour moi, c'est clair, c'est net. Si ces gens-là croient ça, c'est leur croyance, c'est leur problème, je pourrais dire aussi. mais la position de Maxime Bernier, du Parti populaire, elle est très claire par rapport à ça. Donc, on ne fait pas la promotion de ces gens-là qui croient à des théories qui sont non fondées.
D'accord. On a déjà plus beaucoup de temps, puis je voulais parler d'environnement avec une question. En toute candeur, on va se prendre 2 minutes pareil, parce que c'est évidemment un thème qui est très à l'avant ces temps-ci, puis on parle presque toujours de changement climatique quand on mentionne environnement. Qu'est-ce qui a comme proposition présentement dans la plateforme du Parti populaire du Canada en termes d'environnement, outre ce qui a trait au changement climatique?
Bon, ben pour les changements climatiques, on n'a rien dans la plateforme et on n'aura rien. Okay. Parce que le climat change toujours, comme il a toujours fait, il va toujours changer. Et contrairement au discours qu'on entend dans les médias, qu'il y a plus d'ouragans, qu'il y a plus de feux de forêt aujourd'hui qu'au cours des dernières décennies, c'est complètement faux. Le nombre de gens qui meurent sur la planète chaque année à cause d'inondations, de sécheresses, de feux de forêt, de tempêtes ou de températures extrêmes a diminué de 96% depuis un siècle.
Ouais.
Donc, il y a moins de gens qui meurent à cause des changements climatiques. Arrêtons l'alarmisme climatique. Et nous, notre position là-dessus, c'est que l'environnement est une juridiction partagée avec les provinces. En ce qui concerne les changements climatiques, on ne fait rien. On ne signera pas l'accord de Paris. On trouve qu'il n'y a pas d'alarmisme climatique. On ferait peur aux gens pour rien. Et on n'imposera pas de taxes pour lutter contre les changements climatiques, de taxes sur le carbone.
Mais vous avez une plateforme environnementale quand même.
On va laisser les provinces, pour les changements climatiques, on va laisser les provinces gérer ça.
Mais
en ce qui concerne l'environnement, on veut s'assurer qu'on puisse, au Québec, il y a encore des lacs qui sont pollués, on envoie encore nos égouts dans le fleuve Saint-Laurent. Mm-hmm. Je pense que ça serait quelque chose de concret qu'on peut faire pour aider l'environnement et améliorer notre environnement. Arrêter de jeter nos égouts dans le fleuve Saint-Laurent, dépolluer des lacs, dépolluer des rivières. Il y a encore bien des choses à faire de façon concrète et c'est ce qu'on va faire, nous, au Parti populaire.
Tant qu'à être dans l'eau, un petit mot sur les océans. On est conscient que là, pour la pollution, les problèmes sont criants, la surpêche, etc. Avez-vous des ambitions pour, contribuer en ce sens-là à ce que nos océans s'assainissent?
Ben, moi, je pense que on n'a pas de position claire là-dessus actuellement. Ce qu'on va faire, on va développer, on a une plateforme électorale assez complète. On pense que la prochaine campagne électorale sera dans 2 ans.
Okay.
Et on va regarder pour développer d'autres politiques. Et ça serait peut-être un thème qu'on va développer une politique par rapport à ça.
Il y a toujours du travail à faire sur une plateforme. Maxime Bernier, on vous laisse au repos et à la Floride. Amusez-vous pour nous. Merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Et puis, bonne soirée, bonne fin d'après-midi.
À la prochaine, Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. J'ai l'impression que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, la proposition sur les océans. Puis j'ai pensé à toi, mon Chico, en parlant de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes assez criants, merci, de ce côté-là. Le plastique est quelque chose, là. Mais la surpêche, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se produise. Puis tu sais, le gouvernement mondial, moi, c'est une question que je scrute depuis longtemps comme politologue, mais c'est un bon exemple où ça, sans gouvernement mondial, je dis pas que je le veux, là, parce que je sais que tout gouvernement finit par être trop interventionniste puis trop d'imbobettes de tout un chacun, mais sans gouvernement mondial, comment qu'on va faire pour arrêter la surpêche violente puis destructrice qu'on inflige à nos océans depuis des décennies, je sais pas. J'ai ben des traités peut-être, mais tu sais, bilatéral, ça marchera pas
impossible.
Un par un.
Impossible. Puis, je suis dans le même sens que toi au niveau du gouvernement mondial, mais je pense qu'il y a plus de gains que de... Ben, je sais pas si c'est ton opinion, là, mais selon moi, il y aurait plus de gains de mettre en place un système ou du moins un gouvernement mondial. Là.
Mais tu sais, avoue que t'as peur de ça pareil. Là,
j'ai certainement peur de ça. Là, j'ai pas envie non plus qu'on se copie-colle avec la Chine.
C'est love and hate avec les gouvernements. Là. Ouais. Ça en prend, mais en même temps, tu veux les freiner. Puis en même temps, ben l'élan d'un gouvernement, la nature d'un gouvernement, c'est de grossir.
J'ai été déçu par contre de la fin.
C'est-à-dire pour l'environnement, c'est les changements climatiques?
Ouais, la non-reconnaissance des changements climatiques, moi je pense qu'on est déjà rendu ailleurs. Là.
moi, personnellement, je regarde la, ce qu'on nous présente comme la science. Ça me fait beaucoup penser à la COVID. Et je suis d'avis que oui, il y a des incidences humaines d'une échelle assez incroyable, assez grosse. Mais est-ce que c'est exactement les chiffres qui sont... amener exemple à la COP26 avec des modélisations.
Certainement
c'est toujours,
pas,
c'est
mais...
toujours des modélisations. C'est les mêmes modélisations qui nous prédisaient 15 000 cas au Canada par jour au mois d'octobre. C'est le même genre de modélisation.
C'est simple d'esprit, je trouve, de la manière dont ça a été présenté, pour la simple et bonne raison que, ah, mais là, il n'y a pas d'ouragan plus qu'avant, il n'y a pas de changement climatique. Non, t'as peur.
Ça, c'est vrai. Hein?
C'est vrai, mais moi, j'ai pas peur qu'il y ait un ouragan. Moi, ce que je te dis, c'est que du jour au lendemain, on se rend compte qu'on a deux fois plus de guêpes, on a deux fois plus d'araignées. Il y a des problèmes facilement observables par rapport au changement.
Des plans d'eau qui n'existent plus.
Exactement.
Ben, je comprends qu'il dit que l'urgence n'est peut-être pas au point tel qu'on le voit en ce moment ou qu'on le fait à croire, comme il dit. Mais c'est carrément se cacher les yeux. Là. C'est dire, ouais, OK, ben là, ouais, le problème n'est pas là, on le pousse en dessous la table.
Il y en a toujours eu, oui, il y en a toujours eu, mais c'est la vitesse.
Mm-hmm. Au pire, dire, OK, pour l'instant, on ne pense pas à agir en ce sens-là. Mais en plus, c'est ça, aux provinces, il me semble que... je comprends pas.
Ben,
là.
Ça, lui, est assez décentralisateur. Il est d'avis que le gouvernement fédéral devrait se cantonner à ses missions de base.
Okay.
Et ça, moi, là-dessus, ça me traumatise pas pantoute qu'il laisse la balle dans le camp des provinces. Il arrête pas de demander toujours plus de responsabilités.
Oui, je sais, mais pas de budget. S'il arrive un ouragan, on est...
Non, c'est pas ça. Pour les réparations, c'est correct. Okay. Mais juste les catastrophes climatiques, supposément causées par des changements climatiques, ça, il n'y a pas de preuve comme quoi ça aurait augmenté. Il y en a qui essayent de présenter ça de même, mais quand c'est peer-reviewed, c'est plus difficile. Puis, si c'était si clair que ça, je vous garantis qu'on l'aurait d'en face à chaque seconde.
Mais Guillaume,
du
jour. On n'a pas le choix d'y penser maintenant. Ben oui. Pareil, on peut pas arriver au gros du problème. Mettons, là, que gros changement d'une shot, puis faire comme on aurait donc dû. Là, il faut y aller tranquillement parce que ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années avant de réussir à avoir quelque chose de vraiment valable.
Exact. Mais en même temps, à moins qu'on réussisse avec de la technologie à le capter, ce petit carbone-là, oui, puis à faire de quoi avec. Et moi, il parle de l'enfouir. Moi, j'ai de la misère avec ça. Mettez-le solide. Ça, il y a déjà des technologies qui sont viables. Pas viables.
Si c'était payant, ce serait déjà fait.
Aussi.
Payant, mais c'est que ça coûte.
C'était rentable. C'est ça, non, c'est que c'est pas rentable.
Puis aussi, tu sais, je parlais de la COVID avec Laurent tantôt. Les gouvernements ont fonctionné sur le court terme. Les business fonctionnent sur le court terme. Toute administration a cette tangente-là à prendre le court terme devant le moyen puis le long. Et c'est simplement là qu'est le problème. On va s'arrêter parce que, parlant de long puis de moyen, on est dû pour parler à Raymond Côté, ex-député du NPD pour Beauport-Limoilou. On aime ça alterner comme ça. On vous revient dans les salles, grouillez pas, ça va long.